deuxième partie, chapitre 7. La présence de Madame Swann avait pour moi un intérêt particulier, dû à un fait qui s'était produit quelques jours auparavant et qu'il est nécessaire de relater à cause des conséquences qu'il devait avoir beaucoup plus tard, et qu'on suivra dans leurs détails quand le moment sera venu. Donc, quelques jours avant cette visite, j'en avais reçu une à laquelle je ne m'attendais guère, celle de Charles Morel, le fils, inconnu de moi, de l'ancien valet de chambre de mon grand-oncle. Ce grand-oncle, celui chez lequel j'avais vu la dame en rose, était mort l'année précédente. Son valet de chambre avait manifesté à plusieurs reprises l'intention de venir me voir. Je ne savais pas le but de sa visite, mais je l'aurais vu volontiers car j'avais appris par Françoise qu'il avait gardé un vrai culte pour la mémoire de mon oncle et faisait, à chaque occasion, le pèlerinage du cimetière. Mais obligé d'aller se soigner dans son pays, et comptant y rester longtemps, il me déléguait son fils. Je fus surpris de voir entrer un beau garçon de 18 ans, habillé plutôt richement qu'avec goût, mais qui pourtant avait l'air de tout, excepté d'un valet de chambre. Il tint du reste, dès l'abord, à couper le câble avec la domesticité d'où il sortait, en m'apprenant avec un sourire satisfait qu'il était premier prix du conservatoire. Le but de sa visite était celui-ci. Son père avait, parmi les souvenirs de mon oncle Adolphe, mis de côté certains qu'il avait jugé inconvenant d'envoyer à mes parents, mais qui, pensait-il, étaient de nature à intéresser un jeune homme de mon âge. C'étaient les photographies des actrices célèbres, des grandes cocottes que mon oncle avait connues, les dernières images de cette vie de vieux viveur qu'il séparait par une cloison étanche de sa vie de famille. Tandis que le jeune Morel me les montrait, je me rendis compte qu'il affectait de me parler comme à un égal. Il avait à dire « vous » et le moins souvent possible « monsieur » le plaisir de quelqu'un dont le père n'avait jamais employé en s'adressant à mes parents que la troisième personne. Presque toutes les photographies portaient une dédicace telle que « à mon meilleur ami ». Une actrice plus ingrate et plus avisée avait écrit « au meilleur des amis », ce qui lui permettait, m'a-t-on assuré, de dire que mon oncle n'était nullement, et à beaucoup près, son meilleur ami, mais l'ami qui lui avait rendu le plus de petits services, l'ami dont elle se servait, un excellent homme, presque une vieille bête. Le jeune Morel avait beau chercher à s'évader de ses origines, on sentait que l'ombre de mon oncle Adolphe, vénérable et démesuré aux yeux du vieux valet de chambre, n'avait cessé de planer, presque sacré, sur l'enfance et la jeunesse du fils. Pendant que je regardais les photographies, Charles Morel examinait ma chambre, et comme je cherchais où je pourrais les serrer, « Mais comment se fait-il ? » me dit-il, d'un ton où le reproche n'avait pas besoin de s'exprimer tant il était dans les paroles mêmes, « que je n'en vois pas une seule de votre oncle dans votre chambre. » Je sentis le rouge me monter au visage et balbutiai « Mais je crois que je n'en ai pas. »« Comment ? Vous n'avez pas une seule photographie de votre oncle Adolphe qui vous aimait tant ? Je vous en enverrai une, que je prendrai dans les quantités qu'a mon paternel, et j'espère que vous l'installerez à la place d'honneur, au-dessus de cette commode qui vous vient justement de votre oncle. » Il est vrai que, comme je n'avais même pas une photographie de mon père ou de ma mère dans ma chambre, il n'y avait rien de si choquant à ce qu'il ne s'en trouvât pas de mon oncle Adolphe. Mais il n'était pas difficile de deviner que, pour Morel, lequel avait enseigné cette manière de voir à son fils, mon oncle était le personnage important de la famille, duquel mes parents tiraient seulement un éclat amoindri. J'étais plus en faveur, parce que mon oncle disait tous les jours que je serais une espèce de Racine, de Volabelle. Et Morel me considérait à peu près comme un fils adoptif, comme un enfant d'élection de mon oncle. Je me rendis vite compte que le fils de Morel était très arriviste. Ainsi, ce jour-là, il me demanda, étant un peu compositeur aussi et capable de mettre quelques vers en musique, si je ne connaissais pas de poète ayant une situation importante dans le monde Aristo. Je lui en citai un. Il ne connaissait pas les œuvres de ce poète et n'avait jamais entendu son nom, qu'il prit en note. Or, je sus que peu après, il avait écrit à ce poète pour lui dire qu'admirateur fanatique de ses œuvres, il avait fait de la musique sur un sonnet de lui et serait heureux que le librettiste en fît donner une audition chez la comtesse. C'était aller un peu vite et démasquer son plan. Le poète, blessé, ne répondit pas. Au reste, Charles Morel semblait avoir, à côté de l'ambition, un vif penchant vers des réalités plus concrètes. Il avait remarqué dans la cour la nièce de Jupien en train de faire un gilet, et bien qu'il me dît seulement avoir justement besoin d'un gilet de fantaisie, je sentis que la jeune fille avait produit une vive impression sur lui. Il n'hésita pas à me demander de descendre et de la présenter. « Mais par rapport à votre famille, vous m'entendez, je compte sur votre discrétion quant à mon père. Dites seulement un grand artiste de vos amis, vous comprenez, il faut faire bonne impression aux commerçants. » Bien qu'il m'eût insinué que, ne le connaissant pas assez pour l'appeler, il le comprenait, cher ami, je pourrais lui dire devant la jeune fille quelque chose comme « Pas cher maître, évidemment, quoique, mais si cela vous plaît, cher grand artiste. » J'évitais dans la boutique de le qualifier, comme eût dit Salomon, et me contentais de répondre à ces « vous, pardez, vous ». Il avisa, parmi quelques pièces de velours, une du rouge le plus vif et si criard que, malgré le mauvais goût qu'il avait, il ne put jamais, par la suite, porter ce gilet. La jeune fille se remit à travailler avec ses deux apprentis, mais il me sembla que l'impression avait été réciproque et que Charles Morel, qu'elle crut de son monde, plus élégant seulement et plus riche, lui avait plu singulièrement. Comme j'avais été très étonnée de trouver parmi les photographies que m'envoyait son père une du portrait de Miss Sacripant, c'est-à-dire Odette, par Elstir, je dis à Charles Morel, en l'accompagnant jusqu'à la porte cochère, « Je crains que vous ne puissiez me renseigner. Est-ce que mon oncle connaissait beaucoup cette dame? Je ne vois pas à quelle époque de la vie de mon oncle je puis la situer. Et cela m'intéresse, à cause de M. Swann. Justement, j'oubliais de vous dire que mon père m'avait recommandé d'attirer votre attention sur cette dame. En effet, cette demi-mondaine déjeunait chez votre oncle le dernier jour que vous l'avez vue. Mon père ne savait pas trop s'il pouvait vous faire entrer. Il paraît que vous aviez plu beaucoup à cette femme légère, et elle espérait vous revoir. Mais justement à ce moment-là, il y a eu de la fâche dans la famille, à ce que m'a dit mon père, et vous n'avez jamais revu votre oncle. » Il sourit à ce moment pour lui dire adieu de loin, à la nièce de Jupien. Elle le regardait et admirait sans doute son visage maigre, d'un dessin régulier, ses cheveux légers, ses yeux gais. Moi, en lui serrant la main, je pensais à Madame Swann, et je me disais, avec étonnement, tant elles étaient séparées et différentes dans mon souvenir, que j'aurais désormais à l'identifier avec la dame en rose. Monsieur de Charlus fut bientôt assis à côté de Madame Swann. Dans toutes les réunions où il se trouvait, et dédaigneux avec les hommes, courtisé par les femmes, Il avait vite fait d'aller faire corps avec la plus élégante, de la toilette de laquelle il se sentait empanaché. La redingote ou le frac du baron le faisait ressembler à ces portraits remis par un grand coloriste d'un homme en noir, mais qui a près de lui, sur une chaise, un manteau éclatant qu'il va revêtir pour quelques bals costumés. Ce tête-à-tête, généralement avec quelque altesse, procurait à monsieur de Charlus de cette distinction qu'il aimait. Il avait, par exemple, pour conséquence que les maîtresses de maison laissaient, dans une fête, le baron avoir seul une chaise sur le devant dans un rang de dames, tandis que les autres hommes se bousculaient dans le fond. De plus, fort absorbé, semblait-il, à raconter, et très haut, d'amusantes histoires à la dame charmée, monsieur de Charlus s'était dispensé d'aller dire bonjour aux autres, donc d'avoir des devoirs à rendre. Derrière la barrière parfumée que lui faisait la beauté choisie, il était isolé au milieu d'un salon, comme au milieu d'une salle de spectacle, dans une loge, et, quand on venait le saluer, au travers, pour ainsi dire, de la beauté de sa compagne, il était excusable de répondre fort brièvement et sans s'interrompre de parler à une femme. Certes, Madame Swann n'était guère du rang des personnes avec qui elle aimait ainsi à s'afficher. Mais il faisait profession d'admiration pour elle, d'amitié pour Swann, savait qu'elle serait flattée de son empressement et était flatté lui-même d'être compromis par la plus jolie personne qu'il y eût là. Madame de Villeparisis n'était d'ailleurs qu'à demi contente d'avoir la visite de monsieur de Charlus. Celui-ci, tout en trouvant de grands défauts à sa tante, l'aimait beaucoup. Mais, par moments, sous le coup de la colère, de griefs imaginaires, il lui adressait, sans résister à ses impulsions, des lettres de la dernière violence, dans lesquelles il faisait état de petites choses qu'il semblait, jusque-là, n'avoir pas remarquées. Entre autres exemples, je peux citer ce fait, parce que mon séjour à Balbec me mit au courant de lui. Madame de Villeparisis, craignant de ne pas avoir emporté assez d'argent pour prolonger sa villégiature à Balbec, et n'aimant pas, comme elle était avare et craignait les frais superflus, faire venir de l'argent de Paris, s'était fait prêter 3 000 francs par monsieur de Charlus. Celui-ci, un mois plus tard, mécontent de sa tante pour une raison insignifiante, les lui réclama par mandat télégraphique. Il reçut 2 990 et quelques francs. Voyant sa tante, quelques jours après à Paris et causant amicalement avec elle, il lui fit, avec beaucoup de douceur, remarquer l'erreur commise par la banque chargée de l'envoi. « Mais il n'y a pas erreur, » répondit madame de Villeparisis. « Le mandat télégraphique coûte 6,75 francs. » « Ah, du moment que c'est intentionnel, c'est parfait, » répliqua monsieur de Charlus. « Je vous l'avais dit seulement pour le cas où vous l'auriez ignoré, parce que, dans ce cas-là, si la banque avait agi de même avec des personnes moins liées avec vous que moi, cela aurait pu vous contrarier. » « Non, non, il n'y a pas d'erreur. » « Au fond, vous avez eu parfaitement raison, » conclut gaiement monsieur de Charlus, en baisant tendrement la main de sa tante. En effet, il ne lui en voulait nullement et souriait seulement de cette petite mesquinerie. Mais quelque temps après, ayant cru que dans une chose de famille, sa tante avait voulu le jouer et monter contre lui tout un complot, comme celle-ci se retranchait assez bêtement derrière des hommes d'affaires avec qui il l'avait précisément soupçonné d'être allié contre lui, il lui avait écrit une lettre qui débordait de fureur et d'insolence. « Je ne me contenterai pas de me venger, » ajoutait-il en post-scriptum. « Je vous rendrai ridicule. Je vais dès demain aller raconter à tout le monde l'histoire du mandat télégraphique et des 6,75 francs que vous m'avez retenus sur les 3 000 francs que je vous avais prêtés. Je vous déshonorerai. » Au lieu de cela, il était allé le lendemain demander pardon à sa tante Villeparisis. ayant regret d'une lettre où il y avait des phrases vraiment affreuses. D'ailleurs, à qui eût-il pu apprendre l'histoire du mandat télégraphique ? Ne voulant pas de vengeance, mais une sincère réconciliation, cette histoire du mandat, c'est maintenant qu'il l'aurait eue. Mais auparavant, il l'avait racontée partout, tout en étant très bien avec sa tante. Il l'avait racontée sans méchanceté, pour faire rire, et parce qu'il était l'indiscrétion même. Il l'avait racontée, mais sans que Madame de Villeparisis le sût. De sorte qu'ayant appris par sa lettre qu'il comptait la déshonorer en divulguant une circonstance où il lui avait déclaré à elle-même qu'elle avait bien agi, elle avait pensé qu'il l'avait trompée alors et mentait en feignant de l'aimer. Tout cela s'était apaisé, mais chacun des deux ne savait pas exactement l'opinion que l'autre avait de lui. Certes, il s'agit là d'un cas de brouilles intermittentes un peu particulier. D'ordre différent était celle de Bloch et de ses amis. D'un autre encore, celle de M. de Charlus, comme on le verra, avec des personnes tout autres que Mme de Villeparisis. Malgré cela, il faut se rappeler que l'opinion que nous avons les uns des autres, les rapports d'amitié, de famille, n'ont rien de fixe qu'en apparence, mais sont aussi éternellement mobiles que la mer. De là, tant de bruits de divorce entre des époux qui semblaient unis et qui, bientôt après, parlent tendrement l'un de l'autre. Tant d'infamies dites par un ami sur un ami dont nous le croyons inséparable et avec qui nous le trouverons réconcilié avant que nous ayons eu le temps de revenir de notre surprise. Tant de renversements d'alliances en si peu de temps entre les peuples. « Mon Dieu, ça chauffe entre mon oncle et Madame Swann !» me dit Saint-Loup. « Et maman qui, dans son innocence, vient les déranger. Oh, pur, tout est pur !» Je regardais Monsieur de Charlus. La houppette de ses cheveux gris, son œil dont le sourcil était relevé par le monocle et qui souriait, sa boutonnière en fleurs rouges, formaient comme les trois sommets mobiles d'un triangle convulsif et frappant. Je n'avais pas osé le saluer, car il ne m'avait fait aucun signe. Or, bien qu'il ne fût pas tourné de mon côté, j'étais persuadée qu'il m'avait vu. Tandis qu'il débitait quelque histoire à Madame Swann, dont flottait jusque sur un genou du baron le magnifique manteau couleur pensée, les yeux errants de Monsieur de Charlus, pareils à ceux d'un marchand en plein vent qui craint l'arrivée de la rousse, avaient certainement exploré chaque partie du salon et découvert toutes les personnes qui s'y trouvaient. Monsieur de Châtellerault vint lui dire bonjour, sans que rien décelât dans le visage de Monsieur de Charlus qu'il eût aperçu le jeune duc avant le moment où celui-ci se trouva devant lui. C'est ainsi que, dans les réunions un peu nombreuses comme était celle-ci, Monsieur de Charlus gardait d'une façon presque constante un sourire sans direction déterminée ni destination particulière et qui, préexistant de la sorte au salut des arrivants, se trouvait, quand ceux-ci entraient dans sa zone, dépouillé de toute signification d'amabilité pour eux. Néanmoins, il fallait bien que j'allasse dire bonjour à Madame Swann. Mais, comme elle ne savait pas si je connaissais Madame de Marsante et Monsieur de Charlus, elle fut assez froide, craignant sans doute que je lui demandasse de me présenter. Je m'avançai alors vers Monsieur de Charlus, et aussitôt le regrettai, car, devant très bien me voir, il ne le manquait en rien. Au moment où je m'inclinais devant lui, je trouvais, distant de son corps dont il m'empêchait d'approcher de toute la longueur de son bras tendu, un doigt veuf, eût-on dit, d'un anneau épiscopal dont il avait l'air d'offrir pour qu'on la baisât la place consacrée, et dut paraître avoir pénétré, à l'insu du baron et par une effraction dont il me laissait la responsabilité, dans la permanence, la dispersion anonyme et vacante de son sourire. Cette froideur ne fut pas pour encourager beaucoup Madame Swann à se départir de la sienne. « Comme tu as l'air fatiguée et agitée !» dit Madame de Marsante à son fils, qui était venu dire bonjour à Monsieur de Charlus. Et en effet, les regards de Robert semblaient par moments atteindre à une profondeur qu'il quittait aussitôt comme un plongeur qui a touché le fond. Ce fond qui faisait si mal à Robert quand il le touchait, qu'il le quittait aussitôt pour y revenir un instant après, c'était l'idée qu'il avait rompue avec sa maîtresse. « Ça ne fait rien !» ajouta sa mère en lui caressant la joue. « Ça ne fait rien. C'est bon de voir son petit garçon. » Mais cette tendresse paraissant agacer Robert, Madame de Mersante entraîna son fils dans le fond du salon, là où, dans une baie tendue de soie jaune, quelques fauteuils de Beauvais massaient leurs tapisseries violacées, comme des iris empourprés dans un champ de boutons d'or. Madame Swann, se trouvant seule et ayant compris que j'étais liée avec Saint-Loup, me fit signe de venir auprès d'elle. Ne l'ayant pas vue depuis si longtemps, je ne savais de quoi lui parler. Je ne perdais pas de vue mon chapeau parmi tout ce qui se trouvait sur le tapis, mais me demandais curieusement à qui pouvait en appartenir un qui n'était pas celui du duc de Guermantes et dans la coiffe duquel un « G » était surmonté de la couronne ducale. Je savais qui étaient tous les visiteurs et n'en trouvais pas un seul dont ce pût être le chapeau. « Comme monsieur de Norpois est sympathique !» dis-je à Madame Swann en le lui montrant. « Il est vrai que Robert de Saint-Loup me dit que c'est une peste, mais... »«
Il a raison, » répondit-elle.
Et voyant que son regard se reportait à quelque chose qu'elle me cachait, je la pressai de questions. Peut-être contente d'avoir l'air d'être très occupée par quelqu'un dans ce salon, où elle ne connaissait presque personne, elle m'emmena dans un coin. « Voilà sûrement ce que monsieur de Saint-Loup a voulu vous dire, » me répondit-elle. « Mais ne le lui répétez pas, car il me trouverait indiscrète, et je tiens beaucoup à son estime. Je suis très honnête homme, vous savez. Dernièrement, Charlus a dîné chez la princesse de Guermantes. Je ne sais pas comment on a parlé de vous. Monsieur de Norpois leur aurait dit « C'est inepte, n'allez pas vous mettre Martel en tête pour cela. Personne n'y a attaché d'importance. On savait trop de quelle bouche cela tombait. Que vous étiez un flatteur à moitié hystérique. » J'ai raconté bien auparavant ma stupéfaction qu'un ami de mon père, comme était monsieur de Norpois, eût pu s'exprimer ainsi en parlant de moi. J'en éprouvais une plus grande encore, à savoir que mon émoi de ce jour ancien où j'avais parlé de Madame Swann et de Gilberte était connu par la princesse de Guermantes, de qui je me croyais ignorée. Chacune de nos actions, de nos paroles, de nos attitudes est séparée du monde, des gens qui ne l'ont pas directement perçue, par un milieu dont la perméabilité varie à l'infini et nous reste inconnu. Ayant appris par l'expérience que tel propos important que nous avions souhaité vivement être propagé, tel ceux si enthousiastes que je tenais autrefois à tout le monde et en toute occasion sur Madame Swann, pensant que parmi tant de bonnes graines répandues, il s'en trouverait bien une qui lèverait. C'est trouvé, souvent à cause de notre désir même, immédiatement mis sous le boisseau. Combien, à plus forte raison, étions-nous éloignés de croire que telle parole minuscule, oubliée de nous-mêmes, voire jamais prononcée par nous, et formée en route par l'imparfaite réfraction d'une parole différente, serait transportée, sans que jamais sa marche s'arrêtât, à des distances infinies, en l'espèce jusque chez la princesse de Guermantes, et alla divertir à nos dépens le festin des dieux. Ce que nous nous rappelons de notre conduite reste ignoré de notre plus proche voisin. Ce que nous en avons oublié avoir dit, ou même ce que nous n'avons jamais dit,
va provoquer l'hilarité jusque dans une autre planète. Et l'image que les autres se font de nos faits et gestes ne ressemble pas plus à celle que nous nous en faisons nous-mêmes qu'à un dessin quelque décalque raté, où tantôt très noir correspondrait un espace vide et à un blanc un contour inexplicable. Il peut du reste arriver que ce qui n'a pas été transcrit soit quelque trait irréel que nous ne voyons que par complaisance, et que ce qui nous semble ajouté nous appartienne au contraire, mais si essentiellement que cela nous échappe. De sorte que cette étrange épreuve, qui nous semble si peu ressemblante, a quelquefois le genre de vérité, peu flatteur certes, mais profond et utile, d'une photographie par les rayons X. Ce n'est pas une raison pour que nous nous y reconnaissions. Quelqu'un qui a l'habitude de sourire dans la glace, à sa belle figure et à son beau torse, et si on lui montre leur radiographie, aura, devant ce chapelet osseux, indiqué comme étant une image de lui-même le même soupçon d'une erreur que le visiteur d'une exposition qui, devant un portrait de jeune femme, lit dans le catalogue « dromadaire couché ». Plus tard, cet écart entre notre image, selon qu'elle est dessinée par nous-mêmes ou par autrui, je devais m'en rendre compte pour d'autres que moi, vivant béatement au milieu d'une collection de photographies qu'ils avaient tirées d'eux-mêmes, tandis qu'alentour grimaçaient d'effroyables images, habituellement invisibles pour eux-mêmes, mais qui les plongeaient dans la stupeur si un hasard les leur montrait en leur disant « C'est vous !» Il y a quelques années, j'aurais été bien heureux de dire à Madame Swann à quel sujet j'avais été si tendre pour Monsieur de Norpois, puisque ce sujet était le désir de la connaître. Mais je ne le ressentais plus, je n'aimais plus Gilberte. D'autre part, je ne parvenais pas à identifier Madame Swann à la dame en rose de mon enfance. Aussi, je parlais de la femme qui me préoccupait en ce moment. « Avez-vous vu tout à l'heure la duchesse de Guermantes ?» demandai-je à Madame Swann. Mais comme la duchesse ne saluait pas Madame Swann, celle-ci voulait avoir l'air de la considérer comme une personne sans intérêt et de la présence de laquelle on ne s'aperçoit même pas. « Je ne sais pas, je n'ai pas réalisé, » me répondit-elle d'un air désagréable en employant un terme traduit de l'anglais. J'aurais pourtant voulu avoir des renseignements, non seulement sur Madame de Guermantes, mais sur tous les êtres qui l'approchaient. Et, tout comme Bloch, avec le manque de tact des gens qui cherchent dans leur conversation, non à plaire aux autres, mais à élucider, en égoïste, des points qui les intéressent, pour tâcher de me représenter exactement la vie de Madame de Guermantes, j'interrogeais Madame de Villeparisis sur Madame Leroy. « Oui, je sais, » répondit-elle avec un dédain affecté, « la fille de ces gros marchands de bois. Je sais qu'elle voit du monde maintenant, mais je vous dirai que je suis bien vieille pour faire de nouvelles connaissances. J'ai connu des gens si intéressants, si aimables, que vraiment je crois que Madame Leroy n'ajouterait rien à ce que j'ai. » Madame de Marsante, qui faisait la dame d'honneur de la marquise, me présenta au prince, et elle n'avait pas fini que Monsieur de Norpois me présentait aussi dans les termes les plus chaleureux. Peut-être trouvait-il commode de me faire une politesse qui n'entamait en rien son crédit, puisque je venais justement d'être présentée. Peut-être parce qu'il pensait qu'un étranger, même illustre, était moins au courant des salons français, et pouvait croire qu'on lui présentait un jeune homme du grand monde. Peut-être pour exercer une de ses prérogatives, celle d'ajouter le poids de sa propre recommandation d'ambassadeur, ou par le goût d'archaïsme de faire revivre en l'honneur du prince l'usage, flatteur pour cette altesse, que deux parrains étaient nécessaires si on voulait lui être présenté. Madame de Villeparisis interpella Monsieur de Norpois, éprouvant le besoin de me faire dire par lui qu'elle n'avait pas à regretter de ne pas connaître Madame Leroy. N'est-ce pas, monsieur l'ambassadeur, que madame le roi est une personne sans intérêt, très inférieure à toutes celles qui fréquentent ici, et que j'ai eu raison de ne pas l'attirer ?
Soit indépendance, soit fatigue, monsieur de Norpois se contenta de répondre par un salut plein de respect, mais vide de signification.
« Monsieur, lui dit madame de Villeparisis en riant, il y a des gens bien ridicules. Croyez-vous que j'ai eu aujourd'hui la visite d'un monsieur qui a voulu me faire croire qu'il avait plus de plaisir à embrasser ma main que celle d'une jeune femme ?
Je compris tout de suite que c'était le grandin. Monsieur de Norpois sourit avec un léger clignement d'œil, comme s'il s'agissait d'une concupiscence si naturelle qu'on ne pouvait en vouloir à celui qui l'éprouvait, presque d'un commencement de roman qu'il était prêt à absoudre, voire à encourager, avec une indulgence perverse à la Voisenon ou à la Crébillon-fils.
Bien des mains de jeunes femmes seraient incapables de faire ce que j'ai vu là,
dit le prince en montrant les aquarelles commencées par madame de Villeparisis. Et il lui demanda si elle avait vu les fleurs de Fantin-Latour qui venaient d'être exposées.
Elles sont de premier ordre, et, comme on dit aujourd'hui, d'un beau peintre, d'un des maîtres de la palette,
déclara monsieur de Norpois.
Je trouve cependant qu'elles ne peuvent pas soutenir la comparaison avec celle de madame de Villeparisis, où je reconnais mieux le coloris de la fleur.
Même en supposant que la partialité de vieil amant, l'habitude de flatter, les opinions admises dans une coterie, dictassent ces paroles à l'ancien ambassadeur, celle-ci prouvait pourtant sur quel néant de goût véritable repose le jugement artistique des gens du monde, si arbitraire qu'un rien peut le faire aller aux pires absurdités, sur le chemin desquelles il ne rencontre pour l'arrêter aucune impression vraiment sentie.
Je n'ai aucun mérite à connaître les fleurs, j'ai toujours vécu aux champs, répondit modestement madame de Villeparisis.
Mais, ajouta-t-elle gracieusement en s'adressant au prince, si j'en ai eu toute jeune des notions un peu plus sérieuses que les autres enfants de la campagne, je le dois à un homme bien distingué de votre nation, monsieur de Schlegel. Je l'ai rencontré à Broglie où ma tante Cordelia, la maréchale de Castellane, m'avait amené. Je me rappelle très bien que monsieur Lebrun, monsieur de Salvandy, monsieur Doudon le faisaient parler sur les fleurs. J'étais une toute petite fille, je ne pouvais pas bien comprendre ce qu'il disait. Mais il s'amusait à me faire jouer. Et, revenu dans votre pays, il m'envoya un bel herbier en souvenir d'une promenade que nous avions été faire en phaéton au Val-Richer, et où je m'étais endormie sur ses genoux. J'ai toujours conservé cet herbier, et il m'a appris à remarquer bien des particularités des fleurs qui ne m'auraient pas frappée sans cela. Quand madame de Barante a publié quelques lettres de madame de Broglie, belles et affectées comme elle était elle-même, j'avais espéré y trouver quelques-unes de ces conversations de monsieur de Schlegel. Mais c'était une femme qui ne cherchait dans la nature que des arguments pour la religion.
Robert m'appela dans le fond du salon où il était avec sa mère. « Que tu as été gentil, lui dis-je. Comment te remercier ? Pouvons-nous dîner demain ensemble ?
Demain, si tu veux, mais alors avec Bloch. Je l'ai rencontré devant la porte. » Après un instant de froideur, parce que j'avais, malgré moi, laissé sans réponse deux lettres de lui, il ne m'a pas dit que c'était cela qui l'avait froissé, mais je l'ai compris. Il a été d'une tendresse telle que je ne peux pas me montrer ingrat envers un tel ami. Entre nous, de sa part au moins, je sens bien que c'est à la vie, à la mort.
Je ne crois pas que Robert se trompât absolument. Le dénigrement furieux était souvent chez Bloch l'effet d'une vive sympathie qu'il avait cru qu'on ne lui rendait pas. Et comme il imaginait peu la vie des autres, ne songeait pas qu'on peut avoir été malade ou en voyage, etc., un silence de 8 jours lui paraissait vite provenir d'une froideur voulue. Aussi, je n'ai jamais cru que ces pires violences d'amis, et plus tard d'écrivains, fussent bien profondes. Elles s'exaspéraient si l'on y répondait par une dignité glacée ou par une platitude qui l'encourageait à redoubler ses coups, mais cédait souvent à une chaude sympathie. « Quant à gentil, continua Saint-Loup, tu prétends que je l'ai été pour toi, mais je n'ai pas été gentil du tout. Ma tante dit que c'est toi qui la fuis, que tu ne lui dis pas un mot. Elle se demande si tu n'as pas quelque chose contre elle. » Heureusement pour moi, si j'avais été dupe de ces paroles, notre imminent départ pour Balbec m'eût empêché d'essayer de revoir Madame de Guermantes, de lui assurer que je n'avais rien contre elle, et de la mettre ainsi dans la nécessité de me prouver que c'était elle qui avait quelque chose contre moi. Mais je n'eus qu'à me rappeler qu'elle ne m'avait pas même offert d'aller voir les Elstir. D'ailleurs, ce n'était pas une déception. Je ne m'étais nullement attendu à ce qu'elle m'en parlât. Je savais que je ne lui plaisais pas, que je n'avais pas à espérer me faire aimer d'elle. Le plus que j'avais pu souhaiter, c'est que, grâce à sa bonté, j'eusse d'elle, puisque je ne devais pas la revoir avant de quitter Paris, une impression entièrement douce que j'emporterais à Balbec indéfiniment prolongée, intacte, au lieu d'un souvenir mêlé d'anxiété et de tristesse. À tout moment, Madame de Marsande s'interrompait de causer avec Robert pour me dire combien il lui avait souvent parlé de moi, combien il m'aimait. Elle était avec moi d'un empressement qui me faisait presque de la peine, parce que je le sentais dicté par la crainte qu'elle avait de faire fâcher ce fils qu'elle n'avait pas encore vu aujourd'hui, avec qui elle était impatiente de se trouver seule, et sur lequel elle croyait donc que l'empire qu'elle exerçait n'égalait pas et devait ménager le mien. M'ayant entendu auparavant demander à Bloch des nouvelles de M. Nissim Bernard, son oncle, Madame de Marsande s'informa si c'était celui qui avait habité Nice. « Dans ce cas, il y a connu M. de Marsande avant qu'il m'épousât, » avait répondu Madame de Marsande. « Mon mari m'en a souvent parlé comme d'un homme excellent, d'un cœur délicat et généreux. » Dire que pour une fois il n'avait pas menti, c'est incroyable, eut pensé Bloch. Tout le temps j'aurais voulu dire à Madame de Marsante que Robert avait pour elle infiniment plus d'affection que pour moi, et que, m'eût-elle témoigné de l'hostilité, je n'étais pas d'une nature à chercher à le prévenir contre elle, à le détacher d'elle. Mais depuis que Madame de Guermantes était partie, j'étais plus libre d'observer Robert, et je m'aperçus seulement alors que, de nouveau, une sorte de colère semblait s'être élevée en lui, affleurant à son visage durci et sombre. Je craignais qu'au souvenir de la scène de l'après-midi, il ne fût humilié vis-à-vis de moi de s'être laissé traiter si durement par sa maîtresse sans riposter.